Vous écoutez France Culture.
Et comme chaque vendredi, le monde selon Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Lundi prochain et pendant 2 jours va se tenir à Abu Dhabi un sommet international sur l'eau. Ce qui me fait penser que l'eau, souvent, au fond, est un enjeu diplomatique, un enjeu sur des conflits dans le monde, parfois plus important encore que, on pourrait dire, les guerres de religion ou les révolutions. C'est un nœud central, pourrait-on dire, de la géopolitique et de la diplomatie, que ce soit le Proche-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Nord.
C'est un sujet qui est absolument typique des questions de fond, vitales au sens propre du terme, plus importantes en réalité que beaucoup de sujets qui peuvent occuper le devant de l'actualité. Rappelons qu'il y a 1400 millions de kilomètres cubes d'eau sur la planète, depuis toujours d'ailleurs, ça ne change pas, mais il y a plus de 97% d'eau salée par rapport à ça. Et donc, il reste comme ressources d'eau douce renouvelable sur les eaux continentales autour de 2%.
Presque 10 milliards d'habitants sur ces 2%.
Ce qui est 7, puis 9, puis 10, etc. La question démographique est fondamentale, en effet. Et si on enlève les eaux qui sont gelées ou dans les glaces, même si ça diminue avec les changements climatiques, il reste environ 0,7% de cette eau douce disponible. Ce qui disent les spécialistes du développement, tout ça, en théorie suffisant, sauf que la répartition est très contrastée et puis l'utilisation est très contrastée. On considère qu'en moyenne, mais cette moyenne ne veut rien dire évidemment, les individus consomment 500 mètres cubes par personne par an. Mais ça comprend tout, le fait de laver la voiture, de prendre un bain, de boire, etc. Mais si on regarde la consommation par jour, ça va aller de 250 litres pour les Américains par jour.
Incroyable.
Et le gars du Sahel, il va dépenser au maximum 10 litres, la France étant entre les deux, 150. Et puis évidemment, le développement, vous l'avez cité, la population, de plus en plus de gens, la modernisation, donc c'est un mode de vie très 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 consommateur d'eau. Le développement agricole pour les ponctions qui sont faites pour l'irrigation ont été, c'est un exemple parmi des tas d'autres, multipliés par 7 de 1900 à la fin du siècle. Il y a de plus en plus de mégalopoles, il y a une consommation d'eau géante. Donc voilà, donc il y a un énorme besoin d'eau potable non polluée pour l'humanité. Et comme vous le disiez en lançant le sujet, ça peut se traduire par des tensions, par des raretés, par des conflits potentiels. L'exemple le plus typique, c'est les grands fleuves qui apportent de l'eau, prenons le Nil par exemple, on sait bien ce que ça apporte à l'Égypte depuis toujours. Et si des pays en amont, comme l'Éthiopie, comme l'Ouganda, comme le Soudan ou autres, se mettent à développer les barrages et l'irrigation chez eux, évidemment c'est un manque à gagner par rapport à ce qui va couler en dessous. Donc il y a des négociations compliquées avec de vraies tensions. Ça peut durcir, c'est un élément de la géopolitique.
Un des cas les plus tendus, quoi, c'est au Proche-Orient, c'est Israël.
Ça se mêle à des conflits territoriaux qui n'ont toujours pas de solution, les Israéliens et les Palestiniens pour à peu près la même terre, bon, puis on n'y arrive toujours pas, la tension est encore plus grande, ça peut se concentrer sur la question du Jourdain, par exemple, la mer morte, avec les projets, cela dit, il y a une collaboration qui, au moins sur le papier, a été décidée entre les Israéliens, les Jordaniens et les Palestiniens pour réalimenter la mer morte en eau de mer, mais ça, c'est une réalimentation d'eau salée par rapport à ça. Il y a d'autres cas, je citais le Nil, mais c'est vrai pour le Tigre et l'Euphrate, parce que la politique du barrage de la Turquie, par exemple, évidemment, peut faire réagir les Irakiens qui considèrent que, du coup, ils n'ont plus assez d'eau pour leurs propres besoins. Et il y a tous les fleuves qui descendent du plateau tibétain, himalayen, et qui descendent vers la Chine. Alors ça, c'est entre Chinois, Tibétains et Chinois, mais il y a ceux qui descendent vers l'Inde ou vers l'Asie du Sud-Est, le Mékong. Donc il y a des tas de pays en dessous, en aval, qui contestent éventuellement l'utilisation et les équipements que font les pays en amont. Bon, donc c'est un sujet de préoccupation, c'est un sujet de tension, ça pourrait être même un sujet de conflit. Et donc ça fait porter une attention particulière aux nappes phréatiques, d'où la controverse d'ailleurs sur le gaz de schiste. Est-ce qu'il y a moyen d'exploiter le gaz de schiste qui est assez en surface en réalité par rapport aux nappes phréatiques qui sont très profondes? Oui, disent certains, non, disent d'autres. Enfin, il y a une discussion. Donc ça ne peut que devenir un enjeu collectif de plus en plus grave et qui devra être géré avec de plus en plus d'attention, de connaissances scientifiques, d'économie, au sens cesser de gaspiller. Une grande partie des réseaux d'alimentation en eau dans le monde fuit partout. Il y a un gaspillage effrayant, sans parler de gaspillage irrigation ou le fait d'irriguer du maïs dans des endroits où on ne devrait pas faire de maïs, donc il en faut 10 fois plus. Enfin, il y a toute une série de choses à revoir. C'est un vrai sujet de fond.
Bien sûr, notamment on verra bien ce qui se passera sur la question de l'eau au Proche-Orient, parce que c'est parfois, cela dit, une manière peut-être d'exacerber des conflits, mais qui sait peut-être de les apaiser.
D'obliger si l'intérêt,
oui, oui, si l'intérêt commun entre la Syrie et bien Israël, sûr, c'est que chacun ait son eau, on se rend compte que c'est la zone de conflit la moins intense, en tout cas, qu'il y a eu entre les deux pays,
si c'est
à
trop
cause
grave,
de cette question de l'eau.
Si oui, c'est trop grave d'aller au bout des tensions sur ce sujet, alors, il y a une sorte de réflexe qui l'emporte et finalement on coopère parce que c'est trop grave de ne pas le faire et qu'on n'a pas d'autre choix.
Enfin, espérons-le en tout cas. Ouais, c'est ça.
Oui, mais d'ailleurs, dans les points d'eau dans le désert faisaient l'objet d'une sorte de neutralisation entre groupes rivaux, historiquement, je veux dire. En fait, la pression du développement, de la démographie, le mode de vie moderne est telle qu'il faut repenser ça, ce mode de coopération. Donc c'est très bien qu'il y ait des sommets sur ces sujets.
Mais oui, concilier l'eau étant considéré comme des problèmes majeurs à voir de près, à suivre de près pour le 21e siècle. Le monde, selon Hubert Védrine.